hectares, les hectares de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les très denses petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des bois à l'autre promenade,
là, cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de mai de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Cette émission vous est proposée en coproduction avec la scène nationale Évreux-Louviers. Pour radiodiffuser cette émission jusqu'à vos oreilles, l'équipe de Scène de vie, vie de scène a pris renfort auprès de Monsieur Pignon, qui a l'habitude de faire nos extérieurs, et d'Alicia, qui va également mettre les mains dans la technique. Cette émission, comme je le sous-entendais à l'instant, se fait en extérieur, car on aime bien ça, bouger sur les lieux de vie, et se fait aujourd'hui en extérieur du théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil, ce nouvel équipement rouge, cet énorme équipement rouge, où nous essaierons d'en savoir un petit peu plus. Au sommaire de cette émission, justement, nous rencontrerons les co-directeurs.
Oui, nous accueillons Dominique Boivin, qui est co-directeur avec Jean-Yves Lasnec de cette belle structure et ce nouvel équipement qui est pour le coup, pour y être immergé depuis ce matin, une véritable salle dédiée au spectacle vivant.
Bonjour messieurs,
bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Bonjour.
Nous ferons, si nous avons le temps, parce que c'est toujours le sujet en fin d'émission qui saute très régulièrement, en tout cas nous essaierons de faire un petit tour du côté des petites scènes.
Oui, la cinquième édition du festival Les Petites Scènes Voyage entre scène et heure débutera au mois de juin et nous vous présenterons les grands rendez-vous de ce moment de fin d'année.
Bien entendu, nous terminerons l'émission avec un extrait sonore d'un film. Je vous en dis pas. Si, les habitants,
Nous terminerons l'émission avec l'habituel et la coutume du film que nous avons sélectionné pour ce mois-ci. Et notre regard s'est penché sur les habitants de Raymond Depardon, qui est actuellement en salle.
Et pour débuter cette émission, nous vous proposons le traditionnel morceau de vie.
On peut pas s'arrêter comme ça à l'extérieur. C'est en train de dire vraiment, c'est complètement intense comme sensation, comme chose en fait. C'est vraiment. Ça me touche vraiment. Je ressens les choses. C'est ressenti vraiment de choses à travers ça.
D'accord. J'ai pris quoi ? Une pièce. Et la deuxième question, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est la réalité augmentée ?
Pour moi, la réalité augmentée, c'est plus un petit truc dans le... Enfin, vous créez quelque chose de complètement nouveau, en fait. Je vais être un peu biaisé parce que j'ai entendu le reportage de ce matin sur la radio, mais
ouais.
J'ai trouvé ça tellement vrai quand j'ai entendu en fait si la réalité n'était qu'une matière, c'est parce qu'on crée une nouvelle matière. Et je trouve ça encore plus impressionnant après qu'on ait entendu cette chose-là, on comprend encore plus en fait jusqu'où on peut aller. Cette réalité augmentée, ça peut être très puissant, une chose très puissante, comme je pense ça peut être aussi très, très dangereux ou voire malsain sur certaines choses. C'est, je comprends que ce soit pas à la portée de tout le monde en fait, c'est vraiment un truc j'ai l'impression que ça peut, enfin c'est même pas, je vais dire une bêtise, mais je trouve ça complètement Enfin, moi, je reste encore sur le cul. C'est un truc que j'aimerais essayer un jour, peut-être, si c'est possible, mais c'est, enfin, je trouve ça...
Et la dimension fictionnelle à la fiction de la réalité virtuelle, comment elle peut arriver, à votre avis ?
L'imaginaire, je pense que tout passe par là, en fait. C'est vraiment... je connais pas, en fait, je sais pas.
Voilà, après la traditionnelle écoute de ce moment de vie, Cécile, Nathalie, qu'avons-nous écouté ?
Eh oui, c'était une interview suite à la performance Alice de la Compagnie des Réseaux lors de l'événement phare du mois dernier qui était les imaginaires numériques dans le cadre du festival Terre de Parole, où là, la Compagnie des Réseaux proposait un dispositif hallucinant qui plongeait le spectateur dans une réalité augmentée. Et à l'issue de cette immersion du spectateur devant un homme qui avait un complexe, un dispositif sur la tête qui nous rendait compte par ses comportements et par son attitude de sa réalité augmentée, eh bien la compagnie interviewait les spectateurs juste à l'issue de leur voyage dans cette quatrième dimension. Et nous entendions donc une personne, un homme qui a été très accroché par le dispositif et qui est venu également parce qu'il avait, il est venu voir ce spectacle, cette performance, parce qu'il avait entendu notre émission du mois dernier où nous évoquions justement et nous interviewions cette compagnie. Donc c'était intéressant d'avoir en direct le retour et d'émissions et de spectateurs sur cette réalité spectaculaire.
La Compagnie des Réseaux interroge aussi notre capacité à accepter ce qu'on nous propose, interroge également la virtualité au sein de notre vie réelle. Je ne sais pas si on peut tout dire, parce que c'est bon aussi de se laisser surprendre par les compagnies, par la programmation, mais en tout cas, voilà, c'était les éléments qu'ils interrogeaient aussi à travers leur performance.
Oui, jusqu'où nous pouvons croire ou ne pas croire les choses, et ça c'était assez bluffant.
Exactement. Je vous propose que nous partions sur la toute première pause musicale et nous y reviendrons juste après. What you gonna get? For all you got, when you treat the one you love like they are not. Who you gonna call while you're on your own? You built the bed you burned right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them in your money. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Love. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. Love. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through money. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you.
Mélodie Gardot, The Same to You, bien sûr un petit clin d'œil à la programmation de l'Arsenal puisqu'elle était présente ici le 30 mars dernier.
Et nous nous sommes en direct de l'Arsenal à Val-de-Reuil avec nos invités Dominique Boivin et Jean-Yves Lasnec, co-directeurs de cette nouvelle structure qui est l'Arsenal. Bonjour messieurs.
Rebonjour.
Rebonjour. Alors, vous dirigez depuis très peu de temps puisque cet équipement vient d'ouvrir ses portes sur cette saison. Ça a été véritablement sur l'année 2015 où l'inauguration a eu lieu et le premier spectacle dès janvier 2016. Alors, c'est peu courant d'avoir deux personnes à la tête d'un établissement culturel et artistique. Ce choix, vous l'avez décidé à deux, ça a été un choix commun, c'est-à-dire vous avez présenté votre dossier de candidature ensemble ou comment ça s'est fait ? C'est l'écriture du projet à quatre mains ? C'est d'où ça vient ?
Dominique. Alors, oui. Alors, Jean-Yves, je le connaissais parce qu'il dirigeait le festival Côté Jardin et j'aimais beaucoup sa programmation. Et je me suis trouvé plein de points communs avec les projets artistiques, le projet artistique, les compagnies invitées. Et pour X raisons, à un moment donné, voilà, on s'est croisés. Il m'a demandé si j'avais pas une idée sur le chantier de ce théâtre, si j'avais pas une idée de faire un spectacle ou quelque chose. J'ai fait les photos, voilà. Et brusquement, je me suis retrouvé au fond dans ce lieu tout à fait. Je n'avais pas la moindre idée. Je n'avais pas du tout d'ambition particulière de diriger le théâtre. Et petit à petit, avec Jean-Yves, on a discuté, puis on s'est dit pourquoi pas présenter un projet et de se dire toi, Jean-Yves, t'es metteur en scène, moi, je suis chorégraphe. On continue encore à vouloir être sur le plateau, à vouloir créer. Mais parallèlement, est-ce qu'on n'aurait pas une aventure on pourrait pas vivre une aventure comme ça ensemble sur la programmation d'un théâtre, voilà. Et c'est comme ça que tous les deux, on s'est retrouvés à écrire un projet et être au milieu de ces 48, 50 candidats et voilà, défendre notre idée.
Oui, je précise que Dominique Boivin, vous êtes aussi le directeur de la compagnie de danse chorégraphique de Beaugest, qui est installée sur l'île Roy à proximité. Et Jean-Yves Lasnec, vous êtes par ailleurs auteur et metteur en scène de théâtre.
Metteur en scène de théâtre, oui, tout à fait, avec ma compagnie, voilà. Théâtre Main-d'œuvre. Oui.
Donc implanté aussi avec déjà des liens très très forts sur ce territoire. Donc là, c'était pour faire la précision sur vos rôles et vos fonctions par ailleurs d'artiste.
Oui, c'était ça qui nous intéressait. C'est-à-dire, c'était pas être directeur d'un lieu pour être directeur d'un lieu. Moi, quand j'étais directeur de Côté Jardin, j'avais pas du tout le projet d'être directeur de ce théâtre. C'est quand on l'a vu se construire qu'on s'est dit là, il y a un enjeu qui peut nous concerner aussi et sur lequel on peut faire des propositions qui nous paraissaient singulières, sachant que c'est pas un lieu au départ qui est dédié à la création. Donc c'était pas un outil qui était censé servir ou qui est censé servir d'abord nos productions, pas du tout. C'est pas comme le cas d'autres scènes comme un Centre Dramatique, voire une scène nationale. Et pourtant, ce lieu, justement, il est à inventer à partir de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, Dominique, il fait ses créations, moi, je fais les miennes, on a nos activités parallèles. Et puis, on a eu envie de réunir une équipe, ce qui est maintenant le cas, proposer une programmation qui soit à la fois singulière, mais qui soit en même temps en réseau avec les autres lieux, les autres partenaires avec qui on a déjà des relations étroites, notamment la scène nationale des Vaux-Louviers ou Terre de Parole ou d'autres partenaires encore, Cirita Delboeuf la saison prochaine. Et donc on a eu envie de ça. C'était au départ une question de désir, sachant que ni l'un ni l'autre, on avait des postures de propriétaire. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on le vit tous les jours, et c'est ce qui fait qu'on reste assez détendu malgré les responsabilités que constitue l'ouverture d'un nouveau lieu.
Et pourtant, effectivement, ce lieu-là n'est pas voué à la création, mais le choix a été fait de placer deux artistes quand même à la tête de cette structure. Donc ça veut forcément dire que c'est un regard différent, vous n'êtes pas de simples gestionnaires.
J'espère.
Et d'autant, même si on le devient un petit peu quand on est directeur de structure, mais
oui, mais en même temps, je pense qu'un théâtre c'est un laboratoire. C'est un laboratoire d'émotions, un laboratoire de. On tente des choses. Et inviter des artistes, c'est pas seulement les mettre comme ça, comme je dirais vulgairement des perles sur un planning. C'est recevoir des équipes, c'est faire attention. C'est fragile un spectacle. Et tout à fait la même chose avec le public. Il faut l'inviter à venir voir. Et c'est aujourd'hui, avec la pression, en tout cas, voilà, Internet, maintenant, on passe beaucoup de temps sur Internet. Beaucoup de gens regardent des shows sur Internet, un peu ce qu'ils veulent voir, d'ailleurs. Quand on va sur YouTube, ils découvrent des choses, et, par exemple. Et un théâtre, c'est autre chose, c'est du vivant. C'est des vrais corps qui sont sur le plateau. On est en 3D, quand même. Et on s'implique à aller voir sur un plateau. En tout cas, quand on va dans la salle, un public s'implique. Il n'est pas là. C'est pas une matière neutre et passive. Au contraire, il applaudit, il vient voir. C'est une façon d'être dans l'action, d'être aussi créateur pour moi, d'une certaine manière. Et alors, anecdote, là derrière vous, vous avez sur les carreaux des petits signes. C'est pour empêcher que le public se cogne contre les vitres. Et on a demandé à un artiste plasticien, parce qu'on s'est dit qu'il faut déjà le premier acte, la signalétique, il faut qu'elle soit faite par un artiste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'artisan, et pas de l'ordre du... C'est pas une administration, c'est avant tout un théâtre, un lieu de vie. Donc il faut que ça soit vivant. Et ces petits signes-là sont des signes, pour moi, qui sont des signes vivants.
Alors oui, pour décrire à nos auditeurs ce que nous voyons visuellement, sur les baies vitrées donnant sur du hall, donnant sur l'extérieur, on voit un petit sigle qui est d'ailleurs un peu le logo emblématique votre plaquette, mmh. Avec comme une petite arche, comme un début de A arrondi, mais sans la barre au milieu, comme un enfant qui aurait fait aussi
ce
dessin.
Absolument.
Et on sent que toute la signalétique, c'est une écriture en fait, une écriture manuscrite qui est présente sur les portes. Voilà, par exemple, pour l'ascenseur, ce qu'on peut le mentionner, c'est « je descends » ou « je monte ». On est dans une action, donc on est déjà dans de l'humain, on a l'impression. Dans
et du mouvement aussi.
Et du mouvement, et ça nous parle.
Oui, parce que pour la petite histoire, quand même, c'est « je descends vers le haut et je monte vers le bas », une espèce de d'invitation déjà à pas suivre forcément la flèche qui va jusque, vous savez, des placements avec les flèches de couleurs qu'il faut suivre, quoi. Il y a un côté un petit peu déjà, on va vous perturber.
Il y a l'idée d'une approche subjective d'un espace, c'est-à-dire qu'on a une architecture avec des angles, des arrondis, mais on est quand même dans du matériau, et l'idée c'était de proposer déjà du mouvement du corps, de la subjectivité d'un artiste, Patrick Plotin, et à partir de ça, c'est déjà une première entrée peut-être, de même que la plaquette de saison a été réalisée avec eux. Et c'est déjà peut-être une première manière de dire, attendez, cet endroit est peut-être un petit peu différent aussi, même s'il ne s'agit pas d'être dans des concurrences, mais de proposer quelque chose aussi par rapport à cette ville, qui est une ville très en angle droit, on va dire, hein, Val-de-Reuil.
Alors, au-delà d'être en angle droit, cette ville de Val-de-Reuil, elle a une particularité de population et également très multiculturelle. Val-de-Reuil s'est construit autour de beaucoup de communautés. Il y a énormément de nationalités représentées sur Val-de-Reuil. C'est une des particularités de cette ville. À quel moment est-ce que cette multiculturalité, même si le théâtre a vocation à rayonner plus large que Val-de-Reuil, hein, mais à quel moment est-ce que cette particularité de population, de bassin de vie, intervient dans la programmation? Est-ce qu'elle est intégrée? Est-ce qu'il y a une attention particulière par rapport aux particularités humaines du territoire?
Dès le 13 octobre, quand on a fait les soirées, les galas d'ouverture, il y a 1200 habitants de Val-de-Reuil qui sont venus ici. Il y a eu deux fois 600 personnes qui ont été conviées dans la salle. Et sur le plateau, nous étions avec Dominique et moi et 35 autres artistes. On a fait une sorte de kaléidoscope avec, je ne sais plus combien, une douzaine ou une quinzaine d'enchaînements, de propositions artistiques diverses pour ces personnes qui, jusqu'à présent, à commencer par le quartier qui est en face de nous, pensaient que ce n'était pas un endroit où ils avaient nécessairement être invités les premiers à y rentrer. Donc à partir de là, ce qu'on essaie de tisser, mais ça prend du temps et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est de créer à la fois un goût, une envie, une curiosité, et aussi de notre côté une offre qui permettrait de rentrer en dialogue et d'accentuer des rencontres, des proximités. Alors notre première saison, on l'a faite un peu dans des urgences pour toutes sortes de raisons, mais déjà je crois qu'elle propose des grands écarts, qu'elle a déjà quelque chose qui est singulier entre Félag et Mélodie Gardot. On a eu des publics très différents entre la danse que proposait Dominique et même au sein même des offres de théâtre ou de danse, on est dans des grands écarts. Et en même temps, on a la naïveté de penser que ça fait du sens, que c'est pas un catalogue, que c'est pas, mais parce que notre sensibilité, elle tisse des choses déjà entre nous, parce qu'on fait connaissance à partir des propositions qu'on fait. On s'écoute, on dialogue. Moi, Dominique, il a une manière de me parler du théâtre qui me fait réfléchir autrement au théâtre. Je ne sais pas pour lui, pour la danse, mais on a en tout cas petit à petit quelque chose qui est comme un fil un peu discret, mais qui est qui, je crois, se perçoit déjà dans cette première saison, dans la saison qui viendra. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question.
Mais c'est pas grave, j'en ai une autre pour relancer là où je voulais aller plus précisément, vous allez voir. Vous évoquiez c'est le fait que les premiers invités soient les gens qui habitent aux alentours, les gens qui ne s'imaginaient pas forcément que cette proposition s'adressait à eux. Et notamment, il y a ce bâtiment imposant aussi qui peut poser une espèce de barrière psychologique en se disant, voilà, un tel équipement, c'est impressionnant. La programmation, alors je ne sais pas, sûrement il y a des gens très, très, très pointus qui habitent sur Val-de-Reuil, mais en tout cas, majoritairement, on n'imagine pas forcément que ça nous est destiné. Entre le fait que l'équipement soit impressionnant, que la programmation ne soit pas forcément destinée, est-ce qu'il y a des stratégies, au-delà de l'invitation directe, mais ça reste plus ponctuel, est-ce qu'il y a une stratégie d'ouvrir le plus largement possible et peut-être à des gens non initiés à vos programmations?
Alors là, je ne vais pas répondre directement à la question, mais je vais y répondre.
J'en poserai une autre.
D'accord. Je voudrais... Je pense que, comment dire, j'ai l'impression que l'artiste, il n'y a pas de frontières. Il vit sans frontières. Parce que quand on prend, je ne sais pas, on voyage beaucoup. Donc, on passe d'un plateau à un autre, on passe d'un pays à un autre. Donc, d'une certaine manière, la frontière, c'est-à-dire même la sensation du territoire, n'existe pas. Mais c'est difficile de faire passer à des gens qui sont, eux, par contre, sur un territoire. Ils pensent qu'ils habitent là et qu'au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la télé, Tandis que nous, à l'inverse, on va à l'étranger, on voit des façons différentes des gens qui vivent là et qui vivent différemment que nous. Et voilà, ils existent. Au même moment, ils vivent des choses différentes. Et donc, il faut communiquer ça. C'est la première chose. Il ne faut pas avoir peur. Donc, d'une certaine manière, un spectacle sur un plateau, c'est comme un pays étranger. C'est-à-dire qu'il est étranger à nos émotions, étranger à la façon d'être. Donc il faut dire aux gens, n'ayez pas peur, vous allez faire un voyage, vous avez juste un billet à prendre. C'est le cas de le dire, ce n'est pas un billet d'avion, c'est un billet de théâtre. Et là, vous allez voyager. C'est une forme de voyage. Il y a première chose, donc il faut communiquer, ça demande du temps. Il faut que les gens se disent, n'aie pas peur, c'est juste 10 euros, 15 euros la place. Ce n'est pas très cher pour aller visiter un pays. Et deuxième chose, il y a les enfants. Et les enfants, c'est comme une sorte d'intermédiaire. Ils n'ont pas de tabou. Le théâtre, c'est une aventure. C'est vraiment, ils ont envie d'être dans le noir et brusquement d'être embarqués comme ça dans une aventure. Et je pense qu'ils peuvent, et nous l'avons fait sur un spectacle, et de dire, ce soir, ce spectacle rejoue, tu peux inviter tes parents, tu peux leur demander de venir. Et en fait, ça se passe. Ça, c'est le début de quelque chose. Et les enfants, c'est une sorte, je pense, de médiateur poétique.
Vous avez très très bien répondu à la question. Finalement, à travers les programmations jeunes publics aussi, on touche plus largement et peut-être de manière plus directe un peu tout le monde. C'est vrai que régulièrement, on a l'occasion de voir des familles qui arrivent parce que c'est l'invitation des enfants ou les enfants qui ont découvert à travers des ateliers éducatifs ou autres qui ramènent le public. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale avec votre choix, Dominique Boivin, avec un titre de Prince.
Oui, Boys and Girls.
But he had grown accustomed to her style. She had the cutest ass he ever seen. He did too, they were meant to be. He loved to kiss on the steps of her side. It looked like rain on the birds to fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that rebel among the girls and boys? He gave her all the love that anyone can. But she was promised to another man. He tried so hard not to go insane. Birds to fly looks like rain. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Vous êtes très belle, mama, girls and boys. Love is so real. I can't take the breakup if you say that you care. He had to run away, his pride was too strong. Started raining, baby, the birds were gone. Oh,
love you, baby, I love you so much.
Maybe,
maybe we can stay in touch.
Meet me at another world. Vous êtes très belle.
Vous êtes très belle,
mama, girls and boys. Oh.
Si fort, je sentais votre parfum. Votre sourire me dit que nous devrions nous parler. Sur la piste de danse, baby, fais cet appel pour moi. Oui, baby, sexe et vous courez, ne résistez pas. Vous savez que vous aimerez ça. Baby, oh, oh, je vous enlacerai avec mes chants, baby. Pendant des heures, je veux vous étonner, baby. Fleurs dans votre bain, amour dans vos draps. Faire l'amour, où nous rencontrerons nous.
So much. Maybe we can stay in touch. Another world, space, lips, face, happiness, and it's up to form. It's a feeling that I get real warm, warm. Happiness, what we get, what we do, what we do. Happiness and mama is being with you, Lord. Meet me somewhere. Lips set it up. We can talk some more on the dance floor, baby. Hear the words we're saying. Hear the sex I'm laying. Not is what I wanna be with you tonight. Tonight. Set your bell, mama, girls and boys. Such a bell, mama, girls and boys. Such a bell, mama, girls and boys. Girls and boys.
Girls and Boys de Prince, un choix de Dominique Boivin. Alors, Dominique, du coup, je vais me permettre de revenir deux petites secondes sur, sur ce choix musical. Une raison particulière, j'imagine, sur ce choix, voilà, de, dans la règle du jeu que nous, nous imposons d'ailleurs à nos invités dans Scène de vie, vie de scène, nous proposons de faire une pause musicale. Du coup, quelle est un petit peu la raison de ce choix ?
Alors, il y en a deux. Déjà, parce que Prince a disparu il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une sorte de façon de penser à lui. Et deuxième chose, cette musique a été utilisée pour pour un film qu'il a fait qui s'appelle Under the Cherry Moon. Et ça a été fait dans les années 80. Et c'est une sorte de Roméo et Juliette qu'il raconte, où d'un seul coup, c'est un garçon qui fait le tapin, en gros, c'est lui. Et il tombe amoureux d'une fille qui est très riche. Et d'un seul coup, c'est une façon, à mon avis, très amusante de faire une sorte de Roméo et Juliette. Et comme nous parlions de territoire, comme nous parlions, etc., je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de parler de ça, quoi. Entre le théâtre qui pourrait être une sorte de Roméo, je ne sais pas, ou de Juliette plutôt. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, c'est peut-être marrant de faire une relation avec ça.
Alors justement, en parlant de lieu, d'histoire, j'avais envie de rebondir sur ce lieu même physique du théâtre de l'Arsenal. Quand je vous entendais parler, Jean-Yves et Dominique, ça a été vraiment un coup de cœur, une rencontre d'abord, en tout premier lieu, avec ce lieu, cette structure. Et justement, cette rencontre, elle s'est fait où? Ce coup de cœur, il s'est fait comment? On ne tombe pas forcément amoureux tout de suite ou quelque chose se passe avec un lieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a, dans sa conception, fait penser et sentir que bah là, on pouvait y faire quelque chose et y construire quelque chose? Parce qu'il y a des lieux, des fois, où c'est totalement neutre. On passe et c'est neutre. Là, c'est quoi l'âme ou ce que vous avez ressenti en premier abord sur ce lieu?
Mais déjà, on l'a vu grandir, donc en fait, ça s'est fait progressivement. L'amour a grandi, mais pas d'un coup. Il s'est fait avec des blocs de béton, des tours de ciment et des gros engins. Et en même temps, au milieu de tout ça, ces flaques d'eau, Dominique faisait ses photos avec les danseurs et Olivier Bonnet. Moi, j'imaginais ce qui allait arriver. Donc, on était dans quelque chose qui s'est fait progressivement. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on s'est dit, c'est une magnifique machine à jouer. Et que ce lieu est probablement une des plus belles scènes de Normandie. On a 20 mètres mur à mur, 12 mètres sous grille, 16 mètres de profondeur, donc dédié avec un plateau aussi spécialement étudié pour la danse. Donc on savait que ce serait une machine à jouer formidable. Après, il y a une chose, je crois, qui est importante pour nous, et Pierre a rappelé, c'est que c'est l'offre qui détermine la demande de manière artistique. C'est-à-dire que c'est une salle qui fait qu'à un moment, il va y avoir des spectateurs. Personne ne demande qu'on construise des théâtres. C'est une folie de le faire. Et personne ne demande qu'on fasse des spectacles. Personne n'a demandé du Shakespeare ou du Molière ou du Coltès. Ces choses-là, c'est parce qu'à un moment, il y a l'affirmation de quelque chose, un désir, en l'occurrence une ville qui construit un théâtre. C'est pas nous, on est arrivé bien après. Cette affirmation-là d'une offre qui paraît totalement superflue, donc nécessaire, eh bien, elle rencontre à un moment quelque chose. Mais c'est dans ce sens-là que ça se fait. Donc, c'est le projet qui fait la salle, paradoxalement. Et là, il y avait un lieu, mais qui s'est retourné, d'une certaine manière, en devenant un projet, le nôtre. Mais la salle était... Elle reste à inventer. Elle reste à inventer, cette salle. Et sa plasticité, il y a 500 fauteuils, ça peut faire une formule à 280 qui est aussi très cosy. On sent pas que la salle est coupée. Ça peut même aller jusqu'à 180 seulement. On peut être sur le plateau. Enfin, il y a une plasticité qu'on a déjà éprouvée. Hein. On l'a fait en version cabaret. Donc c'est une vraie machine à jouer et pour les artistes invités et pour nous et bien sûr et d'abord pour les spectateurs. Et ça c'est, on le découvre petit à petit encore là. Il y a quelques semaines, on a fait une nouvelle configuration scénique qui nous surprend et qui j'espère sur le public aussi crée on le voit créer une curiosité.
Dominique, vos impressions?
Alors moi ça a commencé, c'est la proposition de Jean-Yves voilà, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu as à dire sur le lieu, donc ça, c'est parti de ça, des photos effectivement, faire des photos avec Olivier Bonnet qui photographe ici sur la ville, demander à des amateurs et des artistes de venir poser comme ça dans notre théâtre, ce qui fait que je connais le théâtre quasiment même dans les endroits qui sont maintenant bouchés quasiment parce que c'est des colonnes d'aération, je connais tout, j'ai tout fait, j'ai parcouru ce théâtre depuis le début, depuis le terrain vague jusqu'à, enfin au début d'ailleurs la démolition de l'arsenal des pompiers jusqu'à l'ouverture du lieu. Donc ce lieu, je le connais, c'est presque un pote. Voilà, c'est vraiment un copain. Donc c'est un très joli laboratoire de travail, Jean-Yves en a parlé. J'aime beaucoup ce qu'a fait Jean-François Baudin, l'architecte, c'est qu'en fait, il y a d'abord le cœur qui est énorme, c'est-à-dire le plateau et la salle, et ensuite autour, il y a les coursives quasiment, le bar, l'entrée et les bureaux, mais c'est, quand on regarde, c'est vraiment le théâtre qui prend le cœur, enfin, la salle et la place des spectateurs.
Alors quand on se met à rédiger le projet, du coup, pour habiter un tel lieu, est-ce que ça aide de l'avoir vu naître, finalement ? Enfin, même presque de le voir se concevoir, est-ce que ça aide ? Enfin, est-ce que ça aide ou pas, justement ? Et qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que ça change l'abord qu'on a de présenter ce projet-là ?
Alors, ce qui est très bizarre, c'est que quand j'ai commencé à construire le projet, je me suis dit, mais pourquoi je vais écrire un projet, puisqu'au fond, il est là. Mais personne ne... C'était d'abord très prétentieux de penser ça. Et puis d'autre part, je me suis dit, mais non, c'est pas parce que tu connais le lieu et que tu as parcouru depuis 3 ans que tu le connais, que tu as un projet. C'est pas un projet, ça. C'est juste, à la limite, je dirais, comme tout à l'heure, c'est faire de ce lieu un copain, un ami. Et après, il faut écrire. Alors là, c'est là que Jean-Yves est intervenu, en tout cas pour ce qui me concerne. Et on a réfléchi ensemble à qu'est-ce que c'est qu'un théâtre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et c'est un projet à long terme. Alors que je ne sais pas si je vais rester là encore longtemps. J'ai aucune idée. Et j'espère réussir dans ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que ça soit un lieu vivant. Et j'espère réussir. Voilà. Maintenant, un projet, c'est un projet. Hein. Il faut se faire aider autour. Il faut que le public ait envie de venir. Il faut qu'il ait envie d'acheter une place, son billet d'avion pour voyager. On fait tout, mais de toute façon, je suis plutôt confiant parce que là, on a ouvert ça en janvier, il y a déjà plus de 10 000 ou 15 000 spectateurs. Je suis super content, hein. C'est super.
Parce qu'on était dans un cas de figure tout à fait singulier, c'est-à-dire que Dominique et moi, on tourne depuis longtemps dans toutes sortes de lieux, Dominique encore énormément aussi à l'étranger. Et là, c'est pas un lieu labellisé, c'est un lieu neuf, c'est pas une scène nationale, c'est pas un centre dramatique, c'est pas un théâtre de ville, c'est une chose nouvelle, en plus avec deux artistes qui font d'autres choses et qui n'ont pas mission de créer là. Donc cette chose-là, on a été amené à l'imaginer, on continue de l'imaginer, et la question du public, elle est en face aussi, c'est-à-dire que comment donner une identité à ce lieu-là, sachant qu'il a quand même une vocation pluridisciplinaire et aussi avec un mandat jeune public également. Et cette question-là, elle est toujours à l'œuvre. On n'a pas bouclé la saison prochaine encore, on y réfléchit, ce qu'on imagine, c'est aussi une chose à inventer. Dominique parlait d'une création, d'un labo, c'est vraiment ça.
Oui, c'est ça. Les mots utilisés étaient terrain d'expérimentation, ça a été laboratoire. Est-ce que c'est ça aussi, prendre ses marques en fonction du lieu et puis accepter que c'est une identité qui va se construire, malgré le fait que j'imagine que vous avez une idée claire de ce quoi vous voulez tendre, mais est-ce que c'est accepter que l'identité se construise avec le temps ?
De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'identité, c'est aussi le public qui va la décider. Nous, on peut faire des hypothèses, on peut donner des lignes, on peut même y réfléchir, y transpirer beaucoup. Au bout du compte, c'est le public qui va dire à l'Arsenal, à Val-de-Reuil, c'est ça qui se passe. J'ajouterais qu'un laboratoire dans une salle de 500 places, ça, c'est un vrai défi. Et que Val-de-Reuil, 15 000 habitants, 500 places, une cage de scène que tout le monde nous envie, ça c'est un défi qui nous a quelquefois donné quelques nuits blanches à y réfléchir.
Enfin, c'est une pression aussi, au-delà d'être un défi, c'est une sacrée pression, j'imagine.
Oui, bien sûr, non, mais c'est dans le sens réel, concret, j'allais dire positif, mais ça fait un peu langue de bois, mais ça constitue toujours un horizon compliqué. Parce que la question du public dans une salle de cette taille, elle nous hante sans cesse. Enfin, elle est tout le temps présente.
C'est un réel enjeu, effectivement.
Enjeu, mais en même temps avec un outil modulable, comme le précisait Dominique, c'est-à-dire que c'est un lieu où vous pouvez accueillir 100, 180, 200, comme 500, avec un jouet vraiment avec différents tiroirs, finalement. Ça me fait rebondir sur déjà la conception, c'est-à-dire qu'il y a quand même un architecte avec une vision scénographe qui s'est posé les bonnes questions, qui s'est déjà positionné en temps de se poser des questions. Qu'est-ce que c'est un lieu de spectacle pour ce territoire-là ? Enfin, je trouve que c'est pensé dès la première pierre, en fait, la conception du...
Il faut mentionner au passage quand même la volonté, le désir du maire, hein, de Val-de-Reuil, qui a donné un cahier des charges en disant « je ne veux pas une salle de 400, mais de 500 ». C'est quand même au départ lui qui est le premier volontaire sur cette affaire. Et Jean-François a fait après ce qu'on voit, cette réussite. Mais au départ, c'était la volonté de faire un outil modulable avec un cahier des charges que vous venez d'écrire.
Et puis, depuis janvier, enfin même depuis l'ouverture là, le 13 octobre, je m'aperçois qu'il y a plein de gens bien à Val-de-Reuil. Il y a plein de gens bien. Et
c'est une surprise.
Ça nous fait...
De...
ça fait
non, c'est vrai. C'est important de dire. C'est super. Je me souviens, moi, quand j'étais ado dans les années 70, Val-de-Roy avait mauvaise réputation. Et eh bien, c'est fini maintenant. Cette ville, elle est formidable. Il y a plein de gens bien. Ce théâtre est là maintenant. Il est simplement là. Je veux dire, on va essayer d'y faire plein de choses. On a proposé des choses. Je m'aperçois quand le public vient là, ben, il y a déjà vraiment des gens formidables qui sont là, qui ont envie de venir, qui ont pris déjà leur billet, qui sont voilà, ils sont présents. Donc ça c'est le démarrage. C'est formidable. Il n'est pas vide, ce théâtre. Donc non, je suis plutôt optimiste.
Effectivement, la réputation de Val-de-Reuil, notamment sur la construction, c'était également un terrain d'expérimentation. Hein. L'architecture de Val-de-Reuil est relativement expérimentale, ce qui n'a pas dû aider, j'imagine, à trouver aussi les marques pour les habitants et puis non plus avoir un regard très clair pour les personnes extérieures. Parce que c'était très très compliqué. À une époque, Val-de-Reuil, on traversait la ville en souterrain. Hein. C'était possible. Voilà. Pareil, une expérimentation, un terrain d'expérimentation, en tout cas pour les architectes, notamment. Je vous propose tout de suite que nous écoutions la pause musicale proposée par Jean-Yves Lasnec, et puis nous revenons juste après pour en parler.
J'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais... Si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine et nos soirées sans cinéma. Et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en. Les belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi. Je conserve le piano. Continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Ferré, la vie d'artiste, un choix de Jean-Yves Lasnec. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix ?
Oui, oui, j'aime bien le contre-pied que ça propose à 13h, un vendredi ensoleillé, une chanson qui est plutôt à écouter aux heures pâles de la nuit, une autre chanson de Léo. Pourquoi ? Parce que Ferré, il a été tellement important, mais au-delà d'une question personnelle, c'est d'abord le poète, l'extraordinaire artiste que c'était, sa liberté, sa capacité de s'entourer de ce qui, de se nourrir de tout ce qui l'environnait et en même temps d'en faire une chose tout à fait personnelle. Je crois que c'est ça la dimension qu'on peut imaginer d'un lieu. C'est à la fois une chose qui existe, qui est partageable et qu'en même temps qui est très singulière. Et Ferré, je suis venu peut-être au théâtre à cause de lui, parce que moi avant je faisais de la musique, hein, je suis arrivé au théâtre un petit peu tard, hein, enfin par rapport à des jeunes gens qui savent à 15 ans qu'ils veulent être acteurs, moi c'est pas fait comme ça. Et la voix de Ferré, sa langue, et puis aussi parce que tout simplement c'est une histoire d'amour magnifique cette chanson, et c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais c'est aussi l'histoire d'amour de quelqu'un qui parle de ce que c'est que le succès qui vient pas ou qui va venir, et quand il vient on s'en fout, et ça je trouve ça magnifique comme manière de se poser en tant que personne.
Alors ça nous fait une belle transition, parce que scène de vie, vie de scène, voilà, on s'interroge, on s'intéresse au fonctionnement, on s'intéresse aux programmations, on s'intéresse à un tas de choses, mais au-delà de ça, nous intéressons également à l'humain, l'homme qu'il y a derrière la fonction, derrière, je dirais, cette vitrine, pas forcément cette vitrine d'ailleurs, en tout cas cette action sur l'Arsenal. Sur ce dernier plateau avec vous, voilà, nous avions envie d'aller un petit peu plus loin et savoir qui était Dominique et Jean-Yves. Finalement, aller un petit... Bah oui, c'est ça, hein, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et justement, cette porte d'entrée musicale, nous la trouvons plutôt intéressante. C'est un petit peu... dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Alors nous n'aurons pas la prétention, d'aller jusque-là, mais en tout cas nous intéressons un petit peu à ce qui vous nourrit artistiquement, ce que vous allez voir, ce que vous écoutez, pas forcément ce qu'on retrouvera à l'Arsenal, mais en tout cas ce qui vous plaît, ce qu'il y a dans votre voiture, voilà, quels sont les CD, les sources audio que vous avez dans vos voitures, et pas forcément musicales pour le coup.
Alors, moi je vais bien commencer. Alors, moi je viens de la danse classique. Je vais expliquer après ce que j'écoute, hein, et ce que je vois. Je viens de la danse classique. La danse classique, c'est quoi ? C'est une danse formelle, c'est un vocabulaire, on apprend à faire des pas. Et puis ensuite, j'ai rencontré Nicolas Hyss via Caroline Carlson, et là j'ai appris à, pas à faire des pas, mais à essayer de savoir qui j'étais. Ça, c'est une autre histoire. Alors, savoir qui on est, oh là là, c'est une vie, suffit pas des fois. Bon, et j'ai donc commencé avec elle à travailler. Ensuite, j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé avec lui, avec Nicolas Hyss. Et bref, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'expliquais ça à un danseur tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est un grand paysage, qu'il faut découvrir un pays. Et donc, les violences qu'on a, ou alors plein de choses comme ça, tellement différentes, on est tellement complexe chacun. Et donc, quand on est artiste, a priori, on va explorer justement ces différences, tout ce qu'on est. Et c'est un peu le boulot. Faut aller affronter ces monstres, comme on dit. Et donc, faut s'y coller, quoi. C'est ça la vie d'artiste, vraiment, pour moi. Et donc, évidemment, si on n'écoute que du bleu ou que du rouge, on n'explore qu'une toute petite partie de ce qu'on est. Et donc, il va falloir qu'on aille voir autre chose. Et donc, c'est exactement là que ça m'intéresse. C'est-à-dire que je vous ai passé Prince, mais je pourrais tout à fait vous faire, je sais pas, vous passer du Scanner ou de la musique électro, ou alors, etc. Je peux. Donc, je ne me sens pas être que Prince, par exemple. Ou je ne me sens pas qu'être que Rolling Stones, j'en sais rien. Ou que Béjart, par exemple. Ça serait pour moi ça serait me réduire à être que ça, alors que je me sens très multiple. Et j'ai l'impression qu'on est tous très multiples. Et que quand on est artiste, le minimum, c'est d'aller explorer justement tout ce qu'on est. Et donc forcément des endroits qu'on ne soupçonne même pas. Et je me souviens parfois, quand on mettait des masques pour travailler, je ne sais pas, telle ou telle émotion, de m'apercevoir que je pouvais être très violent, alors que je crois que je suis quelqu'un de très gentil. Donc ça a été pour moi une surprise, hein, de me dire, en fait, non, je peux être aussi violent. Et comme tout le monde, je crois. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un spectacle ? Eh bien, c'est justement des zooms sur nous, les hommes. Et on voit quelqu'un qui est capable. Là, il y a eu les Chiens de Navarre qui sont passés. Et la première scène, c'est un mec à poil chez lui. C'est très drôle. Et j'ai l'impression de me voir. Et pourtant, je ne suis pas lui. Il est rond. Il a une façon extrêmement, je dirais, extrême de se proposer. Mais moi, j'ai ri. Je me suis vu à ma manière. Et donc, c'est quoi l'artiste ? C'est ça. c'est qu'il y a des gens qui font des zooms. Donc, je suis multiple. Donc, je vais écouter et voir beaucoup de choses différentes.
Jean-Yves, voilà, qui êtes-vous derrière de tout ça? Vous écoutez quoi? Vous nourrissez artistiquement, ou pas forcément que artistiquement d'ailleurs, de quoi? Que mangez-vous?
Ça peut être aussi
plutôt,
ce qu'on
plutôt,
aime.
Oui, parce que qui je suis, ça, je suis bien incapable de répondre comme ça. Mais non, je vais faire un ricochet sur ce que vient de dire Dominique, parce que ça me faisait penser à Louis Jouvet dans ses leçons aux acteurs. Il reprend Henri Michaux, le poète, et il dit mais le moi n'est qu'une situation provisoire. Et pour le comédien, c'est que pain béni de comprendre ça, enfin de faire sienne cette proposition là. Et je pense que moi, c'est ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est être traversé par les choses. C'est comme ça que je travaille avec les acteurs. Je veux dire, vous êtes poreux, vous travaillez sur ce qui vous échappe. Mais le moi est une situation toujours qui est en quête, en recherche, qui n'est jamais stable. Si elle est stable, à ce moment-là, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de création, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de langue, il y a une chose comme ça qui est figée. Et de ce point de vue-là, ce que j'écoute, effectivement, comme musique, par exemple, si c'est pour répondre à cette partie de la question, c'est beaucoup de choses. D'abord, parce qu'effectivement, je fais beaucoup de voitures. En ce moment, le CD que j'écoute, c'est de la philosophie. C'est Michel Onfray, c'est ses conférences d'université populaire. Oui. Et puis, quand j'enlève ça, je mets du Rayana ou du Reynaldo Hahn. Vous voyez, c'est pas, y a pas de... En revanche, ce qui me paraît important... Pour moi, c'est quelque chose qui travaille toujours sur des quêtes de formes nouvelles. C'est ça qui me paraît. Mais les formes nouvelles, elles peuvent être toujours à revisiter à partir de schémas anciens. Hein. Voilà, donc c'est cette tension-là et cette porosité-là que j'aime. Et si on ne sait pas trop en dire davantage, c'est peut-être bon signe aussi.
Un autre élément qui nous parle à nous, c'est au-delà voilà, du fonctionnement que nous on abordait depuis bientôt près d'une heure, il y a quelques petits indicateurs qui pour nous comptent tout de même, à savoir voilà, dans une équipe, il y a le travail réalisé, mais il y a l'ambiance aussi qui va derrière. Et un des indicateurs qu'on trouve intéressant, nous, c'est de savoir si... Est-ce qu'on boit des coups à l'Arsenal après les représentations proposées au public ou comment ça se passe en termes d'équipe? Non, mais je trouve que c'est un indicateur important.
Vous avez raison.
Quelle est la cohésion de la chose?
Vous avez raison, c'est la première chose à laquelle nous avons pensé, c'est se dire que ce bar, il est là, il faut tout de suite qu'il soit animé. Alors, on a demandé tout de suite à quelqu'un de s'en occuper, mais c'est le début. On a trop, vous voyez, il y a très peu de choses. On voudrait du mobilier, tout ça. Bon, on vient d'ouvrir, hein, tout ça, on va s'en occuper. On a envie, parce que c'est très important. Alors, je trouve ça vraiment... Quand je vous dis qu'il y a des gens bien à Val-d'Oreille, c'est vrai, parce que le public qui est là, quand il vient, lui, eh bien, même s'il est mal assis, il reste quand même. Donc, ça veut dire... Enfin, je parle au bar. Hein, je parle dans le bar.
Oui, parce que
dans la salle,
bien,
non.
Hein, ouais, on est plutôt bien, ça.
Je parle du bar.
Plus au bar.
Bientôt, il y aura des vraies choses, des jolies fauteuils, enfin, des trucs sympas où on peut s'asseoir, voilà.
Alors ça, c'est pour
donc
la
on boit des coups.
Voilà, ça c'est alors la partie avec le public. Mais alors dans l'équipe, est-ce que ça se passe pareil au niveau cohésion? Parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder les choses, quoi. C'est,
oui, parce qu'on a
avoir
pas
fait
dit...
nous plusieurs salles et plusieurs programmations. Il y a toujours voilà aussi ce qui anime l'équipe, mine de rien. Enfin, c'est-à-dire que quand je parle du bar, c'est que c'est un indicateur. C'est pas l'unique.
Vous croyez que l'équipe boit des coups toute la journée?
Non, j'ai pas dit toute la journée. Non. Il y a plusieurs types de salles. Par exemple, il y a les salles quand on a bien bossé. Voilà, il y a le temps de cohésion. Alors c'est le repas. C'est pas que boire un coup. Là, c'était le symbole. Le boire un coup, mais il y a le on fait corps, on est une équipe où ça se trouve autrement, hein. Après il n'y a pas de jugement là-dedans, mais en tout cas voilà, c'est savoir comment la cohésion ou pas existe.
Ça c'est une super question, parce qu'en fait l'équipe, elle se voit si elle est cohérente ou pas, c'est quand d'un seul coup il y a le public qui arrive, l'artiste est sur le plateau et l'équipe elle est là. Il n'y a aucun souci. Tout le monde prend sa place. Et ça, pour moi, c'est remarquable. C'est ça, une équipe. C'est pas, bien sûr qu'on n'est pas toujours d'accord sur des choses, mais quand la situation est là, à 20h, 20h30, là, je vous assure que l'équipe, elle est là. Hein.
Et d'ailleurs, justement, cette équipe, on en a peu parlé. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe de l'Arsenal? Est-ce que c'est vous qui avez monté... Enfin, c'est vous, du coup, qui avez monté cette équipe?
Alors... je t'en prie. Jean-Yves.
Oui, non, mais c'est on est une dizaine, mais on n'est pas tous à plein temps. Hein, donc on est à peu près une dizaine de l'équivalent de ça. Et elle, alors c'est une équipe justement qui elle-même est singulière par rapport au lieu. C'est qu'une partie des personnes qui nous ont rejoints, qui travaillaient au service culturel de la mairie, et puis une autre partie qui est liée à l'association du théâtre, puisque le théâtre est dirigé par une association, et que nous avons connu, recruté, avec qui certains ont travaillé déjà. Et cette équipe, il a fallu la créer, l'inventer, et elle continue de grandir de cette manière-là, parce que ce sont des personnes qui viennent d'horizons différents et qui, pour la plupart, n'avaient jamais travaillé dans un théâtre avant non plus.
Regard neuf.
Pardon, excusez-moi, j'étais en train de caler avec notre ami Pignon,
notre
qui est
musicale.
À la réalisation. Bah, on était en train de se dire, il nous reste 4 minutes pour conclure cette émission. Nous avons un extrait des habitants tout aussi intéressant qui dure quasi 2 minutes. Donc il va peut-être être plutôt l'heure de conclure. On rappelle quand même la programmation de Trio Joubrun qu'on retrouve sur Évreux dans peu de temps. Voilà, on ne le diffusera pas. On invite les auditeurs à aller... soit tendre l'oreille sur notre antenne, parce qu'il y en aura. Je vois bien que ça ennuie Monsieur Pignon.
Ah là, Monsieur Pignon est très triste.
Après le générique, alors. Ça
très triste, voilà, nous l'enchaînerons.
Après l'émission, vous aurez un morceau de Trio Joubrun. La programmation, par contre, j'ai plus en tête la date, parce que pour le coup,
alors,
ça fait partie des dates qu'on peut se permettre de souligner.
Donc, vous n'entendrez pas là tout de suite le Trio Joubrun, mais vous pourrez venir les voir et les écouter le mardi 17 mai à 20h30 au Cadran à Évreux, dans la programmation de la scène nationale Évreux-Louviers.
Ici, à l'Arsenal, on retrouve La Belle au bois dormant, prochainement, qui arrive très vite la semaine prochaine. Et puis, un spectacle jeune public, Papa est en bas. Et puis, la compagnie Inuit Iribalas avec La face cachée de la lune, un projet assez incroyable. J'avais d'ailleurs hésité à diffuser un extrait sonore de ce rendez-vous.
De Pink Floyd.
De Pink Floyd, exactement. Voilà. Bon, on n'en dira pas plus parce qu'on a peu le temps. Et puis les fins de saison approchent, mais soyez curieux, hein, n'hésitez pas à venir pousser la porte de ce grand bâtiment. Il s'y passe plein de belles choses. Et puis ailleurs sur le territoire, il se passe
ailleurs
plein de belles choses.
Ailleurs sur le territoire,
aussi.
Il se passe un tas de choses. J'ai envie de dire, pour les festivals musique, nous avons de l'habitude. Et sur le site de Principe Actif, Alicia nous a fait une jolie publication qui rappelle les dates. Non, pas encore, c'est ça ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Incessamment,
incessamment. Je lui vends le truc, hein, c'est déjà bouclé. Mais d'ici très peu, vous pourrez retrouver en tout cas les programmations de festivals. Et puis voilà, vous avez tous Internet maintenant. Il ne vous suffit que de rechercher pour trouver.
Moi, un petit deux mots, si nous avons encore une minute devant nous. C'est quand même de vous évoquer les petites scènes qui vont se propager sur l'agglomération Seine-Eure, donc tout près de chez vous. Et de l'Arsenal et de Val-de-Reuil également. Ça commencera à partir du vendredi 10 juin avec des spectacles, on vous rappelle, hein, ce sont des spectacles dans les communes, avec l'esprit vraiment circassien, familial, ou théâtre d'objets. Voilà, le programme est tout frais, vient de sortir, il est sur le site de la CAS, le site de la scène nationale. Je vous y invite fortement à y faire un tour, vous pourrez voir... partager des moments en famille, même à partir de 3 ans cette année. Donc là, vraiment, ouais. Les tout-petits sont les bienvenus. J'énonce quand même les villes, parce que c'est important pour nos auditeurs, habitants, proches. Vous pourrez alors être... Nous sommes avec les petites scènes à Tôte, Amfreville-sur-Iton, Marteau, Andé, Pause, Erqueville, Cricqueboeuf-sur-Seine, Le Manoir, Igoville, Portejoie, Les Dents et La Vacherie. Alors avec ces 12 communes, il y a de quoi faire.
Exactement, Nathalie, toutes ces informations, comme tu le rappelais, sont à retrouver sur les internets et notamment sur le site de la scène nationale Évreux-Louviers. Nous allons terminer cette émission. Alors avec du coup le traditionnel extrait de film, ce sont les habitants. Nathalie, tu en dirais un petit mot. Et juste après, parce que Monsieur Pignon insiste, et puis il a bien raison d'insister, il y aura justement un titre de Trio Joubrun avant de reprendre la programmation ordinaire, extraordinaire même plutôt. plateau de notre antenne.
Oui, alors notre extrait cinéma, sonore et cinéma, ce sont Les Habitants de Raymond Depardon. C'est un film qui est sorti la semaine dernière, où là, Raymond Depardon redonne une parole des passants, des habitants, puisqu'il a sillonné la France avec une caravane, et il a posé cette caravane dans différents villages, villes de France, et il a demandé aux passants, une personne dans la rue qui était déjà en conversation, eh bien il les a invités à continuer à poursuivre leur conversation dans cette caravane, mais cette fois-là, filmée avec un plan très précis, où les personnes donnent aux spectateurs leur histoire, leur moment de vie, leur moment de vie dans ce monde ou dans leur ville. Voilà, donc je vous le conseille. Il sera dans la programmation du Ciné Plus à Évreux, je crois, dans les jours à venir. Donc très très prochainement, vous pourrez le découvrir.
Très bien. Et bien.
Et puis, je voulais aussi remercier Dominique et Jean-Yves de nous avoir accueillis.
Merci de nous avoir invités.
Vraiment. Merci beaucoup. C'était un plaisir.
Voilà. Et bien, nous vous disons au mois prochain. J'allais dire à la semaine prochaine parce que ça y est, je vais enchaîner les émissions. Mais non, le mois prochain.
Et entre deux, on vous souhaite un bon mois de sortie.
Merci. Bon spectacle.
Du nord au sud, de Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg. Je pars à la rencontre des Français pour les écouter parler. J'ai aménagé une vieille caravane et j'invite des gens, rencontrés dans la rue quelques minutes auparavant, à poursuivre leur conversation devant nous, en toute liberté.
Ça va être un été mouvementé, tu vas voir. Je suis sûre que tu vas rencontrer quelqu'un. Je suis sûre, je te jure, j'arrête pas de le dire à Julio.
T'es beau.
Comme toi.
Mais on est complètement l'opposé.
À l'opposé.
On se demande pourquoi, mais ensemble d'ailleurs.
Trop de sentiments, bébé. Trop de sentiments, bébé.
Dans la vie, il n'y a pas que les études. Hein. Le mari aussi, c'est sacré.
Et macho, ils sentent plus pisser parce qu'ils savent tenir une ponceuse. Arrêtez, la ponceuse, je te la tiens.
C'est compliqué de dormir avec quelqu'un. Ça fait du bruit, ça bouge, et moi, ça me met les nerfs.
C'est pas dur, c'est la guerre.
Je suis un boomsie, ça, c'est sûr. Je pourrais faire carrière.
Je suis amoureuse. En fait, tu déconnes, là. Non, bébé.
Dès que je me suis mis en couple, toutes les filles de Nice y venaient.
Ah ouais.
Ça fait 40 ans que je suis là, je repartirai jamais.
Tu vois, en fait, la Bible, elle change. Oui, les écrits changent, tu vois.
Un couple normal, on dort ensemble.
On a eu l'habitude de vivre en famille, dans la famille et dans le quartier.
Le quartier. Ouais. Ouais.